21, je dois t'avouer, Dicky, que dans les derniers matchs, en l'absence d'Hendrix Lapierre, j'ai pas nécessairement vu les résultats des Sags, mais ça va encore bien.
Ah oui, ça va bien.
C'est pas problématique, là.
Non. Avec une période des transactions qui s'en vient également, c'est pas problématique. Mais moi, dans le cas d'Hendrix Lapierre, ce qui m'inquiète le plus, c'est la santé du jeune homme. Bien avant les performances de joueur de hockey, puis son rang de repêchage, puis etc., etc. Parce qu'Hendrix Lapierre, faut-il le rappeler, c'est un gars qu'on voyait top 5, même à la limite, là, pour le prochain repêchage de la LNH. Mais là, Hendrix Lapierre est blessé. Et on parle d'une troisième commotion cérébrale dans son cas en seulement 8 mois. N'a que 18 ans. Et on spécule depuis ce temps-là. Hein? Ah, il peut-tu revenir? Mais là, il n'y a pas le choix parce qu'il va peut-être devenir millionnaire. Mais d'un autre côté, c'est la santé.
Pis... Lui, le Flo, il doit vouloir revenir. Puis essayer au maximum de convaincre tout le monde qui est prêt à revenir.
C'est sûr. Mais je ne suis pas médecin. Il n'y a pas de médecin autour de la table. Sauf qu'il y en a un en bout de ligne qui est un neuropsychologue, le docteur Dave Ellenberg. Docteur Ellenberg, bonjour.
Oui, bonjour.
Bon, je comprends que vous n'avez pas examiné le jeune Lapierre, mais 18 ans, 3 commotions en 8 mois. Peux-tu jouer au hockey encore? Comment on réagit à ça quand on entend des choses comme ça?
Écoutez, évidemment, il y a plusieurs facteurs pour considérer cette problématique et y répondre. Premièrement, est-ce que M. Lapierre a eu des commotions cérébrales avant ces 3 commotions dans les derniers 8 mois? Est-ce qu'il y en a 3 dans sa carrière? Est-ce qu'il y en a plus? Vous savez, c'est pas rare pour moi de rencontrer des jeunes et de leur famille, des jeunes notamment là, qui jouent de très haut niveau, et pas nécessairement juste de haut niveau, mais déjà qui, à l'âge de 15-16 ans, ont accumulé quelques commotions cérébrales. Et on sait que plus haut est le niveau de jeu. Hein? Donc, c'est les jeunes qui sont déjà à Bantam relève, 2A, 3A, Midget 3A, mais c'est des jeunes qui jouent dur. Alors, dans le cas de 8 commotions qu'il donne M. Lapierre là, en 8 mois, pour moi, c'est presque inimaginable que quelqu'un dans cette situation-là retourne au jeu dans cette saison. Même s'il s'en remet relativement bien, disons en quelques semaines, le cerveau a cumulé les conséquences de ces commotions-là.
Parce qu'on dit souvent, docteur, qu'une commotion, ça fait un peu comme un bleu, comme une contusion sur le cerveau. Est-ce que c'est vrai?
Pas tout à fait. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Une commotion cérébrale, évidemment, va créer vraiment une cascade d'événements chimiques, neurobiologiques, qui va détruire différentes régions du cerveau, littéralement. Évidemment, après une commotion cérébrale, le cerveau arrive à s'en remettre. Hein? Mais ça laisse des cicatrices, ça laisse des petites séquelles. On sait qu'après une deuxième, typiquement, la récupération est un peu plus lente. Les gens arrivent à s'en remettre s'ils bénéficient du repos nécessaire. Mais après 3-4 commotions, il commence à y avoir des traces permanentes. Dans ce cas-là, généralement, la récupération, elle est plus lente. Et les gens vont avoir plus de mal à s'en remettre et ils peuvent rester avec des problèmes d'attention, de mémoire, de temps de réaction. Et on sait que ça, c'est les habiletés qui sont essentielles au jeu. Réagir rapidement, être attentif à tout ce qui se passe autour de nous, prendre des décisions rapidement aussi. Et donc, un retour trop rapide au jeu pour M. Lapierre, pour peu importe qui est le joueur, en fait, mais peut le mettre à risque d'avoir d'autres commotions cérébrales. On sait que juste à cause de la blessure, de la vulnérabilité que le cerveau a, lorsqu'on retourne au jeu, on a déjà eu une commotion cérébrale, on est déjà de 5 à 7 fois plus à risque d'en subir une autre. Et si on rajoute à cela le fait qu'on est un peu moins vigilant, un peu moins rapide, évidemment, là, ça peut mener à des conséquences beaucoup plus graves à la longue.
Donc, une quatrième commotion pour lui cette saison, c'est inimaginable, c'est impensable même, là.
Mais moi, écoutez, je comprends que vous avez dit en tout début de segment, que votre préoccupation était vis-à-vis de sa santé.
Ouais.
Mais que peut-être la sienne est par rapport à sa carrière, que ce soit, peu importe les enjeux, que ce soit financier, que ce soit le prestige, mais au-delà de cela, je pense qu'il faut ramener les parents, les jeunes, les coachs sur terre et centrer le discours autour de la santé parce que, pour moi, ça n'a aucun sens de le mettre à risque de subir une quatrième commotion cérébrale. Déjà, 3 dans une saison, c'est trop. Plusieurs médecins, chercheurs, et j'en fais partie, suggèrent qu'à la suite d'une deuxième commotion cérébrale dans une saison, on devrait arrêter de pratiquer pendant cette saison-là et laisser une pause, laisser une chance au cerveau.
Donc, selon vous, repos complet pour le reste de la saison, puis l'an prochain... On peut penser recommencer, là.
Donc, selon moi, pas repos complet pour la saison. C'est-à-dire, on reprend nos activités intellectuelles, on reprend nos activités physiques, il pratique son sport, il se remet en forme. Mais par contre, pas de compétition, pas de jeu pour le reste de la saison qui pourrait mettre sa santé à risque, en fait, qui pourrait le mettre à risque de subir une autre commotion cérébrale. Mais oui, être actif, faire du sport, s'entraîner physiquement lorsqu'il n'aura plus de symptômes. Mais par contre, on évite les situations où on pourrait avoir une autre commotion cérébrale. Je dirais même, ce qu'il aurait besoin, c'est une évaluation complète d'une équipe médicale, donc neurologue, évaluation en neuropsychologie, pour comprendre si les trois commotions qu'il a eues, et peut-être d'autres dans le passé, qui sait, ont déjà des conséquences significatives sur son cerveau, sur les capacités de son cerveau, et les risques qu'il aurait d'en subir une autre. Lorsqu'il aurait ce bilan complet-là de santé cognitive, de santé intellectuelle, après ça, l'équipe pourrait prendre une décision et voir si le coup en vaut la chandelle pour lui.
Dans le junior majeur, dans la Ligue nationale, on entend souvent parler du protocole de retour au jeu en cas de commotion cérébrale. Ce que je comprends de vos propos, c'est que ce protocole-là n'est pas assez sévère, n'est pas assez...
Absolument, il n'est pas assez sévère. Oui. Quand on pense à la Ligue nationale, à les athlètes professionnels, en fait, le protocole, c'est des lignes directrices, mais ultimement, c'est le joueur qui décide. Pour ce qui est des jeunes, en fait, et des jeunes d'âge scolaire ou qui compétitionnent à différents niveaux au hockey, le protocole parle seulement d'une commotion cérébrale et comment retourner au jeu et à l'activité physique à la suite d'une commotion cérébrale, mais ne nous dit pas ce qu'un jeune devrait faire s'il en a accumulé 2-3 au cours d'une carrière ou même au cours d'une saison. Et c'est là encore l'importance d'avoir des médecins, des neurologues, des neuropsychologues qui sont neutres, qui ne font pas partie de l'équipe sportive, qui vont prendre en charge ce jeune-là, la famille, et puis de discuter là, des risques et de poursuivre ce sport-là.
On parle du hockey, donc évidemment, le but du hockey, là, c'est de prendre une rondelle, la mettre dans le filet, mais il y a des dommages collatéraux suite aux mises en échec puis qui peuvent arriver. Bon, c'est une chose. À écouter vos propos, c'est super intéressant, mais je suppose que tout ce qui est sport de combat comme la boxe, les arts martiaux mixtes, vous devez pas être un grand adepte de ça, hein?
Écoutez, vous savez que toutes les associations pédiatriques à peu près à travers le monde, que ce soit l'association canadienne, américaine, britannique, australienne, se sont prononcées pour que les sports de contact, de coups directs à la tête, soient interdits chez les mineurs. Oui, parce que ça a des conséquences graves et faut pas se mettre la tête dans le sable. On n'a pas besoin, on sait, de perdre connaissance pour avoir subi une commotion cérébrale. Seulement 10% des gens qui ont une commotion cérébrale ont perdu connaissance. Alors, quand les gens de la boxe ou des arts martiaux mixtes nous disent « Ah ben, nos joueurs ont peu de commotion cérébrale parce qu'il n'y a pas de KO », on sait que c'est faux. En fait, un athlète des arts martiaux mixtes peut subir même plusieurs commotions cérébrales lors d'un seul match.
Docteur Ellenberg, si on revient sur le hockey, est-ce que, selon vous, selon ce que vous constatez, la Ligue de hockey junior du Québec et la Ligue de développement Midget 3A se comportent bien avec leurs athlètes qui ont des commotions?
Écoutez, ce que je comprends de ces deux ligues-là, ils ont des équipes de professionnels attitrés. Donc, ce que j'en comprends aussi, c'est qu'il y a des thérapeutes du sport sur les lignes de côté lors des matchs. Et ils ont aussi une équipe médicale. En ce sens, ils vont appliquer un protocole de gestion des commotions cérébrales. Là, ce qu'on doit savoir, c'est ce qu'ils font du cas par cas. Qu'est-ce qu'ils font lors de cas comme M. Lapierre? Ça, je ne peux pas me prononcer parce que je ne le sais pas. Mais la question étant, est-ce que les athlètes sont bien encadrés? Ils sont encadrés par les meilleurs professionnels du domaine. Si, par contre, M. Lapierre retournait au jeu, dans les prochaines semaines, évidemment, j'espère que l'équipe de professionnels autour aurait pris les meilleures décisions pour l'avenir et la santé de ce jeune-là.
Avant qu'on se quitte, il y a des gens qui nous écoutent, des parents qui disent « Bon, mes enfants font pas de sport de contact, je suis correct. » Mais j'ai lu récemment que dans des sports comme le cheerleading et comme le patinage courte piste de vitesse, il y a aussi beaucoup de commotions qui se font, puis ça, on le sait moins.
Écoutez, faut pas avoir peur d'inscrire nos jeunes dans des sports où ça brasse non plus, là. J'en ai des jeunes enfants, et puis, bon, si un jour ils veulent jouer au football, je vais les laisser. Par contre, je vais être sur le terrain, puis je vais faire partie des parents fatigants qui va s'assurer qu'on a un protocole de gestion des commotions cérébrales, que les entraîneurs, que l'équipe autour connaissent les commotions cérébrales. Mais oui, vous avez raison. Que ce soit le patinage de courte piste ou même le cheerleading, le risque de commotion cérébrale est très élevé dans ces sports-là. En fait, le cheerleading serait un des sports, parce que c'est un sport de gymnastique et d'athlétisme de haut niveau, où il y a un très haut risque de commotion cérébrale. Mais ce qu'on veut, dans le fond, c'est que les jeunes soient bien encadrés, qu'ils soient bien pris en charge. Lorsque les jeunes, qu'on leur apprenne à reconnaître les signes et les symptômes des commotions cérébrales, qu'on apprenne aux coachs, aux gens qui encadrent les équipes aussi à reconnaître les signes et les symptômes. Ça, on le fait pas pour le moment. Vous m'avez parlé évidemment de la Ligue junior majeure, les Midget 3A et tout cela. Eux font partie de l'exception parce que en général, beaucoup de temps est investi sur l'éducation, la sensibilisation des professionnels autour. Donc, surtout qu'on quitte ce milieu-là et on arrive au niveau récréatif, mais il y a beaucoup peu de ressources d'information et de sensibilisation pour les gens qui encadrent les équipes. Et c'est là qu'on devrait miser, selon moi.
Dr. Dave Ellenberg, neuropsychologue, merci beaucoup de nous avoir parlé aujourd'hui.
Merci et bonne journée.
Merci à vous.
C'est pas la première fois qu'on lui parle. Puis on a eu le flash de le rappeler pour la question d'Henri Slapierre particulièrement. Puis c'est les équipes de la Ligue nationale, les dépisteurs, leurs équipes médicales, sont au courant de tout ça, eux autres aussi. Là.
Ben oui.
Fait que tu te dis, est-ce que ça vaut tant la peine de revenir cette année sachant tout ça, ou tu donnes la chance aux jeunes de bien guérir pendant la saison au complet, puis à se dire à l'an prochain?
Parce que...
Quitte à avoir un rang de sélection moins élevé, mais non, ils vont avoir un moins élevé pareil.
Fait que, non, Simon, pas nécessairement. Parce que ce qu'on ignore, c'est que pour le repêchage, tu dois te rendre admissible. Donc, il n'y a rien qui empêche l'équipe d'agents d'Henrix Lapierre. Mettons, supposons, okay, mettons le pire scénario. Mettons qu'Henrix Lapierre, malheureusement, on lui recommande de ne plus jouer de l'année. Bon, mais il a juste à ne pas devenir admissible pour le prochain repêchage. Il commence l'année prochaine à 19 ans, connaît une super année, il ne se passe rien de grave, tout va bien, et il peut être repêché première ronde à 19 ans, là.
Pas fou, ça.
Ah oui, il peut se retirer
du repêchage. C'est juste que ça va en dehors. C'est ça. Ça va en dehors des standards qu'on dit qu'un jeune, un bon jeune, ça va être drafté à 17-18, mais.
Tu vas avoir un meilleur bonnet de signature si tu fais ça peut-être que si tu t'es repêché en 5e ronde.
Mais c'est ça. Il y a une question de santé, puis le gars, il est intéressant, là. Tu sais, il est vraiment, vraiment intéressant.
Ben, c'est un médecin.
Mais on sait tout aussi la pression qu'il y a en arrière. Tu sais, le jeune a travaillé toute sa vie, là. Le kid, là, quand j'ai travaillé, il a travaillé fort sur son talent, ses aptitudes. C'est là, là. C'est là et il y aura une décision à prendre de dire est-ce que pour le bien de ma santé, je fais mon pas en arrière ou je peux pas passer à côté ou laisser le train passer. Ça doit être... s'il y a bien quelqu'un à qui je voudrais pas être dans ses culottes, c'est lui.
Écoutez, Dr. Ellenberg, Christopher Letang ne jouerait plus au hockey.
Il y en a une couple qui jouerait plus au hockey. Là. Ou qui aurait sauté des années au complet. Il jouerait peut-être encore,
mais
il aurait
manqué. Le problème, excuse-moi Fred, de Christopher Letang, c'est on s'en reparlera dans 20 ans.
Ben, c'est ça, exact.
Parce que le problème, c'est qu'il y a plein de gars...
Là, il va encore bien, tu sais, quand il revient, il est performant, puis tout est correct, mais à long terme...
On espère pour lui, puis on touche du bois, comme on dit, là. Puis, tu sais, dans le cas des Sacks, si on parle point de vue strictement hockey, ce que j'aime pas faire dans ce cas-là, mais ça va pas si mal que ça, les Sacks, là. Puis il y a une période d'échange qui s'en vient.
Exact.
Puis, tu sais, c'est pas... Hendrix n'est pas la pierre angulaire de l'équipe, là, présentement. Peut-être l'an prochain, mais présentement, non. Fait qu'on sait ce qui s'en vient, puis je suis pas inquiet, puis du moins j'espère qu'on sait ce qu'on fait avec les Saguenay. Je suis convaincu qu'on sait ce qu'on fait avec les Sags niveau santé, là. Puis moi, je me souviens, quand j'entends ça, troisième commotion, je faisais sport le matin, j'ai dit, c'était rien de moi, je voudrais plus de l'année, le kid, là. Puis c'est bien beau de dire, ouais, mais c'est pas lui, c'est pas nous autres qui décident, je sais, je suis pas médecin. Mais pour son bien à lui,
t'es pas médecin, mais t'es père.
Wow, dans d'autres domaines.
Voilà, dans d'autres domaines. Puis tu sais, quand j'ai fait référence au patinage de vitesse courte piste, sais-tu pourquoi j'ai dit ça?
Vas-y.
Tu dois t'en souvenir?
Vite de même, non. Là.
On avait parlé à Valérie Maltais.
Oui.
Puis on avait abordé la question des commotions cérébrales.
Oui.
Puis elle avait été extrêmement évasive là-dessus. On avait subi quelques-unes, puis ouais, OK, on a un protocole, puis on passe vite à autre chose, parce que là, on parle d'argent dans le cas du hockey, mais tu parles d'Olympique. Dans le cas du patinage de vitesse courte piste.
Une fois 4 ans.
Fait que d'après moi, tu veux revenir aussi. Puis est-ce que le protocole est le même? Est-ce que. Parce que il y en a, je dirais pas autant ou plus qu'au hockey, mais il y en a beaucoup là, avec les chutes qu'ils ont, les chocs à la tête et tout le kit, il y en a beaucoup aussi. Puis sans dire qu'elle avait l'air de banaliser ça.
Ben, j'ai pas de cas précis de commotion cérébrale du côté du patinage de vitesse. Je sais pas.
Ben, vous l'avez dit non.
Je pourrais, mais.
Qu'il y en avait eu, là.
Ouais, il y en a, mais tu sais, à quel point et à quel pourcentage.
Ben, rendu dans longue piste, c'est moins la.
Ben, sont deux.
C'est moins la zizanie un petit peu.
Ils sont deux. Puis ouais. Leur corridor bien.
Exactement.
Précis,
disons que peut-être qu'il y a une partie de sa décision qui vient là-dedans aussi après plusieurs commotions cérébrales, puis on le saura jamais.
Moi, je pense qu'elle voulait étirer sa carrière.
Possible.
Moi, d'après moi, Valérie Maltais, son choix de faire ça, c'était d'étirer sa carrière. Parce que des patineurs de vitesse longue piste, dans la trentaine, t'en as, là. Puis qui performent. Fait qu'elle voulait peut-être garder le rêve olympique encore plus longtemps, là.
Exact. Dicky, merci beaucoup.
Plaisir.
Bonne fin de journée.
Pour nous joindre via messagerie texte et téléphone.